Paul Féval, père, La fabrique du crime, préface. Voici déjà plusieurs années que les fabricants de crimes ne livrent rien. Depuis que l'on a inventé le naturalisme et le réalisme, le public honnête, autant qu'intelligent, crève de faim, car, au dire des marchands, la France compte 1 ou 2 millions de consommateurs qui ne veulent plus rien manger, sinon du crime. Or, le théâtre ne donne plus que la gaudriole et l'opérette abandonnant le mélodrame. Une réaction était inévitable. Le crime va reprendre la hausse et faire prime. Aussi va-t-on voir des plumes délicates et vraiment françaises fermer leur écritoire élégante pour s'imbiber un peu de sang. La jeune génération va voir refleurir sous d'autres noms des usines d'épouvantables forfaits. Pour la conversion radicale des charmants esprits dont nous parlions tout à l'heure, il faut un motif, et ce motif, c'est la hausse du crime. Hausse qui s'est produite si soudain et avec tant d'intensité que l'Académie française a dû, tout dernièrement, repousser la bienveillante initiative d'un amateur qui voulait fonder un prix Montyon pour le crime. Nous aurions pu, imitant de très loin l'immortel père de Don Quichotte, railler les goûts de notre temps. Mais ayant beaucoup étudié cette intéressante déviation du caractère national, nous préférons les flatter. C'est pourquoi, plein de confiance, nous proclamons dès le début de cette œuvre extraordinaire qu'on n'ira pas plus loin désormais dans la voie du crime à bon marché. Nous avons rigoureusement établi nos calculs. La concurrence est impossible. Nous avons fait table rase de tout ce qui embarrasse un livre, l'esprit, l'observation, l'originalité, l'orthographe même, et ne voilà que du crime. En moyenne, chaque chapitre contiendra 73 assassinats, exécutés avec soin, les uns frais, les autres ayant eu le temps d'acquérir par le séjour des victimes à la cave ou dans la saumure, un degré de montant plus propre encore à émoustiller la gaieté des familles. Les personnes studieuses qui cherchent des procédés peu connus pour détruire ou seulement estropier leurs semblables trouveront ici cet article en abondance. Sur un travail de centralisation, bien entendu, nous avons rassemblé les moyens les plus nouveaux, soit qu'il s'agisse d'éventrer les petits-enfants, d'étouffer les jeunes vierges sans défense, d'empailler les vieilles dames ou de désosser messieurs les militaires, nous opérons nous-mêmes. En un mot, doubler, tripler, centupler la consommation d'assassinats, si nécessaire à la santé de cette fin de siècle décadent, tel est le but que nous nous proposons. Nous eussions bien voulu coller sur toutes les murailles de la capitale une affiche en rapport avec l'estime que nous faisons de nous-mêmes. Mais notre peu d'aisance s'y oppose et nous en sommes réduits à glisser ici le texte de cette affiche tel que nous l'avons mûrement rédigé. Succès inouï, prodigieux, stupide. La fabrique de crimes. Affreux roman par un assassin. L'Europe attend l'apparition de cette œuvre extravagante où l'intérêt concentré au-delà des bornes de l'épilepsie incommode et atrophie le lecteur. Tropman était un polisson auprès de l'auteur qui exécute des prestiges supérieurs à ceux de Léotard. 100 feuilletons à 73 assassinats donne un total superbe de 7300 victimes qui appartiennent à la France, comme cela se doit, dans un roman national. Afin de ne pas tromper les 5 parties du monde, on reprendra avec une perte insignifiante les chapitres qui ne contiendront pas la quantité voulue de monstruosités coupables, au nombre desquels ne seront pas comptés les vols, viols, substitutions d'enfants, faux en écriture privée ou authentique, détournement de mineurs, effraction, escalade, abus de confiance, bris de serrure, fraude, escroquerie, captation, vente à faux poids, ni même les attentats à la pudeur. Ces différents crimes et délits se trouvant semés à pleine main dans cette œuvre sans précédent, saisissante, repoussante, renversante, étourdissante, incisive, convulsive, véritable, incroyable, effroyable, monumentale, sépulcrale, audacieuse, furieuse et monstrueuse, en un mot, contre nature. Après laquelle, rien n'étant plus possible, pas même la putréfaction avancée, il faudra tirer l'échelle. Chapitre 1er. Messa, Sali, Lina. Il était 10 heures du soir, peut-être 10h15, mais pas plus. Du côté droit, le ciel était sombre, du côté gauche, on voyait à l'horizon une lueur dont l'origine est un mystère. Ce n'était pas la lune est bien connue. Les aurores boréales sont rares dans nos climats et le Vésuve est situé en d'autres contrées. Mais qu'était-ce ? 3 hommes suivaient en silence le trottoir de la rue de Sévigné, marchaient un à un. C'étaient des inconnus. On le voyait à leurs chaussons de lisière et aussi à la précaution qu'ils prenaient d'éviter les sergents de ville. La rue de Sévigné, centre d'un quartier populeux, ne présentait pas alors le caractère de propreté qu'elle affecte aujourd'hui. Les trottoirs étaient étroits, le pavé inégal. On lui reprochait aussi d'être mal éclairé, et son ruisseau répandait des odeurs particulières où l'on démêlait aisément le sang et les larmes. Un fiacre passa. Le rémouleur imita le sifflement des merles. Le joueur d'orgue et le cocher échangèrent un signe rapide. C'était Mustapha. Il prononça 4 mots seulement. « Ce soir, Silvio Pellico !» Au moment même où la 11e heure sonnait à l'horloge carnavalet, une femme, jeune encore, à la physionomie ravagée mais pleine de fraîcheur, entr'ouvrit sans bruit sa fenêtre située au 3e étage de la maison du repris de justice. Une méditation austère était répandue sur ses traits, pâlis par la souffrance. Elle darda un long regard à la partie du ciel, éclairée par une lueur sinistre, et dit en soupirant « L'Occident est en feu. Le fils de la condamnée aurait-il porté l'incendie au sein du château de Mauruse ?» Un cri de chouette se fit entendre presque aussitôt sur le toit voisin, et les 3 inconnus du trottoir s'arrêtèrent court. Ils levèrent simultanément la tête en tressaillant. Le premier était bel homme, en dépit d'un emploi entre le poids de Bourgogne qui lui couvre l'œil droit, la joue et la moitié du nez, les 3/4 de la bouche et tout le menton. À la vue de cet emplâtre d'une dimension inusitée, un observateur aurait conçu des doutes sur son identité. Rien du reste en lui ne semblait extraordinaire. Il marchait en sautant comme les oiseaux. Son vêtement consistait en une casquette moldave et une blouse taillée à la mode garibaldienne. La forme de son pantalon disait assez qu'on l'avait coupé dans les défilés du Caucase. Il n'avait point de bas ni de décorations étrangères. Sous sa blouse, il portait un cercueil d'enfant. Le second, plus jeune et vêtu comme les marchands de contremarque, avait en outre des lunettes en similor pour dissimuler une loupe considérable qui déparait un peu la régularité de ses traits. Le 3e et dernier, doué d'une physionomie insignifiante en apparence, mais féroce en réalité, portait la livrée des travailleurs de la mer, sauf l'habit noir et la cravate blanche. Le reste de son costume consistait en un gilet de satin lilas et un pantalon écossais. Évidemment, ils avaient adopté tous les trois ces divers travestissements pour passer inaperçus dans la rue de Sévigné. Quels étaient leurs desseins? Il était facile de reconnaître à première vue, malgré le masque de tranquille indifférence attaché sur leur visage, que c'étaient trois malfaiteurs intelligents et endurcis. À l'instant où il levait les yeux vers le toit d'où le cri de chouette venait de B, une fusée volante s'alluma et décrivit dans les airs une couche arrondie. « C'est le signal !» dit le premier inconnu. « La route est libre !» ajouta le second. « Rien n'arrêtera nos pas !» Le troisième conclut. « Mort aux malades du docteur Fandango !» La fenêtre du troisième étage se referma avec précaution et Mandina de Hachecor, l'amante du gendarme, car c'était elle, pensa tout haut. « Mustapha, tarde bien. Si le fils de la condamnée a réussi, tout n'est pas encore perdu. » Elle disparut après avoir jeté un dernier regard à la lueur lointaine qui rougissait la portion occidentale du ciel. Les trois inconnus, cependant, s'étaient retournés au son de leur propre voix et groupés en rond d'un air impassible. L'école du danger leur avait appris à contenir l'expression de leurs craintes et de leurs espérances. Tout le monde dans Paris sait quelle est la grandeur des véhicules de l'ancienne compagnie Richer, appartenant aujourd'hui à messieurs Lesage et compagnie industrielle de la Villette. Une de ces voitures, si propres par leur taille à cacher des armes prohibées, des trappes et des doubles fonds, ainsi qu'à dissimuler des conspirateurs, était arrêtée devant le trottoir. Elle abritait momentanément nos trois inconnus contre tous les regards. Ils s'examinèrent l'un l'autre minutieusement. « Mais ça !» prononça avec mystère celui qui était bel homme en dépit d'un emplâtre de dimension inusitée. « Sally !» fit le second. « Lina !» acheva le troisième. Gringalet, l'enfant naturel de l'huissier de la place des Vosges, entendit ces trois étranges locutions. Il les réunit, les dédoubla, et dit en lui-même « Mais ça fait « Mais ça, Lina !» C'était un impubère vif, grêlé, gracieux, rieur et bancroche, comme tous les gamins de Paris. À la voiture de vidange à air comprimé, trois grands chevaux percherons étaient attelés. Gringalet, souple comme un serpent, eut l'idée de se glisser entre la queue et la croupe de l'un de ces animaux. Une fois installé là, convenablement, il prêta l'oreille. Sa curiosité était éveillée. Son intelligence précoce l'avertissait que ce nom, coupé en trois, était le symptôme d'une situation saisissante. En effet, celui qui avait prononcé le mot « Messa » tendit ses mains aux deux autres. Ils échangèrent aussitôt plusieurs signes maçonniques, connus d'eux seuls. Après quoi, Sally tira de son sein un pli scellé aux armes de rue de Lame de Carthagène, ancien seigneur du pays, ruiné par des cataclysmes, et Lina montra une bouteille bouchée à l'aide d'un parchemin vert. « 18 !» prononça-t-il à voix basse. « 24 !» répliqua Sally. « 33 !» gronda Messa d'un accent caverneux. « Tous clients du docteur Fandango. »« Trois clients du docteur Fandango !» répétèrent Sally et Lina. Gringalet croyait rêver. Mais ça poursuivit, en soulevant un peu son emplâtre pour respirer plus commodément l'air de la nuit. « Total général, 73, c'est notre compte. » Les deux autres firent écho, répétant « 73, oui, c'est notre compte. » Et Bessa, avec une gaieté farouche, ajouta « Monsieur le duc sera content. Je lui en rapporte un petit par-dessus le marché. » En même temps, il frappa le cercueil d'enfant qui rendit un son lugubre. Gringalet comprenait vaguement. La moelle de ses os se figeait dans ses veines. « C'est donc bien vrai ce que disent les romans à un sou, » pensa-t-il. « Mais Paris contient d'épouvantables mystères. Ces inconnus sont peut-être les trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée. » Sa voix s'arrêta dans son gosier, tout son corps trembla. Si c'était vrai, une simple queue de cheval percheron le séparait d'un trépas inévitable. Sally, cependant, toucha son pli, scellé d'arbres nobiliaires, et murmura « Le fils de la condamnée est nourri des projets. Monsieur le duc nous convoque pour cette nuit dans les galeries qui s'étendent sur le fleuve. » « C'est bien, » dit Messa. « Depuis la dernière assemblée, 300 et quelques squelettes nouveaux ornent ces souterrains, dont Paris, ville de plaisir insouciant, ne soupçonne pas même l'existence. » Oh, « cette nuit, » fit Sally avec un sarcasme cruel, « il s'agit de la jeune et belle Elvire. » Un triple éclat de gaieté sinistre ponctua cette communication, et Lina, débouchant sa bouteille de fer-blanc, ajouta « Allez, donnez vos fioles, pendant que la voiture de vidange à air comprimé nous protège contre tous les regards, je vais faire la distribution de l'élixir funeste. » Chapitre 2 La machine infernale. Gringalet avait lu un grand nombre de romans criminels. Il n'était pas sans connaître les innombrables et horribles dangers que Paris dissimule sous le riant manteau de ses fêtes. Mais à 11 heures du soir, dans la rue de Sévigné, une distribution d'élixirs funestes, destinée sans doute à décimer les populations, ceci dépassait toutes les bornes. Pour lui démontrer qu'il n'était pas le jouet d'une vaine illusion, il fallut un fait matériel. Au moment où Lina enveloppait le parchemin qui fermait sa bouteille afin de remplir les fioles de ses deux complices, une odeur se répandit dans l'atmosphère, une odeur indéfinissable et si pénétrante que les trois pieuvres mâles, malgré l'habitude invétérée qu'ils avaient de cet aromate, éternuèrent à l'unanimité. Gringalet en eut envie, mais il se contint, craignant de dévoiler sa présence. En dépit de sa jeunesse, il avait de la perspicacité. Loin de se laisser abattre par la position précaire qu'il occupait entre la croupe et la queue du cheval, il se mit à fixer dans sa mémoire le nom à compartiment des trois inconnus, Messa, Sally, Lina, et les divers détails de cette scène inconcevable, afin de les révéler au docteur Fandango, qui était son bienfaiteur et son parrain. En effet, l'huissier de la place des Vosges, dont il avait le malheur d'être le fils illégitime, l'avait abandonné dès sa plus tendre enfance aux soins du hasard. Nous n'aimons pas les digressions, mais nous déclarons qu'un homme, comme il faut, ne doit jamais détailler le fruit de ses débauches, surtout lorsqu'il est officier ministériel. Messa et Sally, cependant, avaient atteint chacun une fiole en métal d'Alger qu'ils portaient, attachée à leur chaîne de montre. Lina emplit les flacons et dit avec une horrible ironie « Voilà de quoi meubler le charnier de l'Arche Notre-Dame !»« Silence !» ordonna Messa, qui semblait avoir sur les deux autres une autorité morale. « Nous avons une position agréable chez Monsieur le Duc, ne la perdons pas, par de puériles étourderies. Bien des oreilles nous guettent, bien des yeux nous observent. » Ben, nous avons contre nous, outre les agents du pouvoir, toutes les créatures du docteur Fandango, le joueur d'orgue, le rémouleur, et surtout Mustapha, qui dissimule, sous sa profession de cocher de fiacre, une naissance féodale et une éducation de premier ordre. Nous avons Mandina de Hachecor, qui s'est faite femme coupable pour nous épier, et bien plus. Dans cet unique but, elle a même accueilli l'amour d'un simple gendarme. La multiplicité de nos ennemis commande une circonspection croissante. Monsieur le duc n'est pas estimé dans son quartier. Toi, Carapace, sais-tu comment on nomme la demeure ici près? On l'appelle la maison du repris de justice. Et toi, arbre à couche, tu passes pour avoir été mal guillotiné, et moi-même, j'ai pas conservé au nom de Boulet Rouge toute la considération dont l'avaient entouré mes ancêtres. Ainsi donc, soyons muets, comme des sols normandes, et pour le vrai plaisir de faire des mots, ne risquons pas notre aisance. Comme tous les braves, le célèbre Boulet Rouge, l'homme à l'emplâtre, avait de ses aphorismes et parlait avec facilité. Ses compagnons moins lettrés restaient sous le charme de sa faconde et oubliaient d'ouvrir l'œil de lynx. Gringalet, au contraire, dans l'intérêt de son bienfaiteur, le docteur Fandango, était tout oreille. Il classait dans sa jeune mémoire avec soin les renseignements obtenus. Ainsi donc, le véritable nom de Messa était Boulet Rouge, Lina s'appelait Carapace, Sally se nommait Arbre à couche et devait avoir au cou le vestige particulier à la guillotine. Et tous trois possédaient un élixir farouche et travaillaient pour un charnier inconnu du vulgaire. Hier encore, Gringalet n'était qu'un enfant naturel, vendant les listes des loteries autorisées, ouvrant la portière des fiacres à l'entrée des lieux de réjouissance, tels que spectacles, bals et restaurants. Aujourd'hui, la connaissance de tant de secrets le mûrissait de plusieurs lustres. Il se cramponnait à son poste, bien qu'il en sentît les inconvénients. Cette nature abrupte, mais dévouée, préférait sa cachette incommode à un lit de rose où il ne lui eût pas été donné de se rendre utile. Il voulait mettre un terme aux 73 meurtres quotidiens qui désolaient la France. Ces caractères se font très rares. Les trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée, puisque nous connaissons désormais leur position sociale, avaient d'excellents motifs pour causer en toute sécurité sur le trottoir de la rue de Sévigné. Outre la voiture déjà nommée qui les isolait de la chaussée, sur les toits de la maison du repris de justice, une sentinelle active surveillait pour eux les alentours, prête à signaler le moindre danger à l'aide d'une fusée volante. C'était Tancrède, dit Chauve-souris, parce que les sourcils lui manquaient, ex-enfant de cœur de Saint-Eustache, congédié pour abus de burette. Il était le neveu propre de Dina Tête d'Or, concubine d'Arbre à couche. Il aurait pu passer pour incorruptible, sauf sa bouche sur laquelle il était porté. Nous avons besoin de poser ces détails en apparence indifférents pour rendre compréhensible la catastrophe vraiment neuve qui va clore ce second chapitre. À 11h13, Mandina de Hachecor, l'escarboucle de Charenton-le-Pont, comme l'appelait Brissac, son gendarme et son esclave, ouvrit avec précaution la porte du réduit modeste où elle abritait son talent et sa beauté. Vous n'auriez pu la voir sans l'aimer. Elle portait en galant déshabillé de nuit et tenait à la main une carafe de cassis et un verre à pâte. Elle monta deux étages. Tout en haut de l'escalier, elle passa sa tête charmante à une lucarne qui donnait sur le toit, et d'une voix douce, elle appela Tancrède, surnommé Chauve-sourire. Celui-ci veillait. Il avait soif, comme toujours, et reconnut bien la voix douce qu'il avait appelée plus d'une fois déjà pour lui offrir du Vespetro ou de la Nisette, car Mandina appartenait au docteur Fandango et ne reculait devant aucun sacrifice pour servir les intérêts de cet homme remarquable. Tancrède vint, Mandina lui offrit un verre de cassis, puis, usant des innocentes séductions de son sexe, Elle l'entraîna dans sa chambre, où elle l'enferma à double tour en ayant soin de mettre aussi le verrou et plusieurs barres de fer très solides. Dès lors, Messa, Sally et Lina manquaient de factionnaires. Leur sécurité devenait chimérique. Mandina avait ses projets. Elle se coiffa d'un chapeau de bergère, ôta sa crinoline et mit un faux nez. Ainsi travestie, elle descendit l'escalier 4 à 4. En descendant, et par surcroît de précaution, elle posa sur son faux nez une paire de lunettes vertes, propriété d'un jeune écrivain déjà célèbre qui portait ombrage à Brissac. Il avait tort, on peut avoir sur soi les lunettes vertes d'un jeune homme dépourvu d'aisance sans pour cela manquer au lobat de l'honneur. Parvenue au rez-de-chaussée de la maison du repris de justice, Mandina de Hachecor enfila l'allée et se glissa comme un vent-coulis derrière les trois pieuvres mâles qui causaient toujours. Boulet Rouge la vit, il avait un œil d'aigle, mais, trompé par son déguisement, il la prit pour un bas bleu. Mandina franchit la chaussée et s'élança sur le trottoir opposé où se trouvaient également trois hommes bien différents de Messa, Sally et Lina. Peu de personnes ont eu connaissance de cette grande lutte entre le duc de Rudelame Carthagène et le docteur Fandango. L'autorité tendit un voile prudent sur ces horribles massacres afin de ne point effrayer les touristes qui sont la fortune de Paris. De même que les trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée étaient soudoyés par le duc, de même les trois belles et robustes natures rassemblés sur le trottoir opposé, travaillaient pour Fandango. C'était Pollux, le joueur d'orgue, Castor, le rébouleur, et Mustapha, le conducteur de citadine. Tous trois déguisés en hommes du peuple. Remarquez ceci, jadis, les gens du peuple se déguisaient en grands seigneurs pour faire leur méchant tour. Aujourd'hui, depuis que le roman coupable dispose des doubles fonds de Paris, les gens de qualité se mettent en voyous pour pouvoir pénétrer dans tous ces souterrains où grouille le crime. C'est un échange fait entre l'Auvergnat à 5 centimes et l'habit noir à 1 sou. Mandina ôta d'un geste rapide son faux nez avec ses lunettes. Elle arracha son chapeau de bergère. Il ne lui manquait désormais que sa crinoline. Paris, dit-elle, craignant de n'être pas reconnue. Palmyre, répondirent les trois bons cœurs. Puis mademoiselle de Hachecor leur demanda avec énergie. Vous ai-je suffisamment prouvé que je suis Mandina, la fille du grand chef des Ancas, l'escarboucle de Charenton-le-Pont? « Oh oui, répondit Mustapha, tu as notre confiance, parle !» Il se permit en même temps un geste régent, autant qu'indiscret, car il aimait les dames. Sans cela, il eût été parfait. Mandina le repoussa avec décence et dit « J'ai examiné le ciel avec soin, une lueur apparut du côté de Mauruse où s'est écoulée mon enfance. » Pollux, Castor et Mustapha se regardèrent sans frémir. Que Dieu protège le fils de la condamnée, murmura le cœur des belles natures. Et tous se serrèrent la main d'une façon particulière. Mandina, contenant son émotion, prit une pause plus saisissante. Ces voitures gigantesques, poursuivit-elle en montrant le véhicule de messieurs le sage et compagnie, sont propres à cacher tous les forfaits. Contient-elle des animaux dangereux ? Demanda vivement Mustapha. S'il n'avait pas d'épée à cause de son métier civil, néanmoins il était digne d'en porter une. Mandina eut un sourire amer. Voilà, cher, répondit-elle, je ne fais pas d'allusion dedans, mais au dehors. Sur le trottoir qui vous fait face, et à l'abri de cette volumineuse machine, j'ai vu réunis, carapace, l'homme à l'élixir funeste, arbre à couche, le secrétaire du duc et boulet rouge, l'assassin du sang-garde. Castor, le rébouleur, grinça aussitôt les dents. Ce n'est pas étonnant, le sang-garde était son propriétaire. Mustapha mesurait déjà de l'œil la voiture de vidange. Il était dans son caractère de la franchir au lieu d'en faire le tour. Boulet rouge, ajouta Mandina, a sous sa chemise le cercueil de l'enfant. Un cri d'horreur s'éleva de toutes les poitrines. Les vidangeurs, cependant, achevaient leur besogne. On avait vidé et purifié la modeste fosse d'aisance de la maison du repris de justice, dont le rez-de-chaussée était occupé par deux industriels brevetés, un marchand de cirage inoffensif pour la chaussure et un commerçant en col de poisson. Pollux, Castor, Mandina et Mustapha se rapprochèrent les uns des autres si étroitement que leurs haleines se confondirent. Elles n'étaient pas toutes agréables. Mandina, parlant d'une voix creuse et avec des inflexions étranges, disait « L'abadou, à l'usage des fumeurs, est une des plus récentes inventions de ce siècle qui marche d'un pas sûr vers le progrès matériel. Il a produit le télégraphe électrique et la photographie. Sans parler d'autres merveilles qu'il serait trop long d'énumérer dans des circonstances aussi graves. Plus récemment encore, il a produit, toujours pour l'usage des fumeurs, ce petit briquet étonnant avec lequel on parvient à enflammer les allumettes de la régie. J'en possède un. Il suffirait de se glisser jusqu'à cette voiture énorme, de présenter avec adresse à l'ouverture du robinet d'arrivée une allumette préalablement enflammée. L'esprit s'étonne de ce qui arriverait. Les compagnons de Mandina éprouvèrent un malaise, excepté Mustapha, dont l'esprit résolu et subtil était fait pour comprendre les avantages incalculables de cette combinaison. « Je l'oserais, » prononça-t-il avec un geste intraduisible. « Si ma mère me voit du haut des cieux, elle appréciera les motifs de cette démarche. C'est le seul moyen honnête que nous ayons pour débarrasser l'Europe civilisée de ces trois pieuvres mâles. » Non, Dina, pour cette bonne réponse, lui confia aussitôt sa main à baiser. Castor et Pollux approuvèrent la résolution de Mustapha. Celui-ci, pâle d'émotion, mais gardant aux pommettes cette tache rouge qui indique la phtisie galopante, reçut de Mademoiselle de Hachecor le briquet récemment inventé. Muni de cette arme incendiaire, il se coula comme un tigre vers la voiture de vidange. Les employés allaient justement fermer les robinets. Une minute de plus et l'entreprise était manquée. Messa, Sally et Lina avaient fini de parler affaires. Ils se préparaient à partir en fredonnant des chants patriotiques. Mustapha était beau à voir. Au moment où, par des prodiges de patience, il réussissait à enflammer une récalcitrante allumette de l'impôt. Aucun signe de crainte ne se manifestait en lui, sinon un tremblement général et bien naturel. Il approcha la préparation chimique du robinet en murmurant « Oh, ma mère !» L'effet se fit un peu attendre, mais pour n'être pas instantané, il n'en fut pas moins remarquable. Une explosion majestueuse et pareille à plusieurs coups de tonnerre fit trembler le sol jusqu'à la rue Saint-Antoine, située non loin de là. Toutes les vitres de la rue de Sévigné, sans en excepter une seule, furent mises en pièces. « quelques pavés même furent déchaussés comme des dents malades. Une odeur nauséabonde et infectante se répandit dans l'air. Les maisons de la rue du Sinistre furent maculées du sol aux fêtes et les ruisseaux roulèrent des flots de déjections putrides et asphyxiantes. Mais là ne se bornèrent pas les dégâts. 73 personnes des deux sexes et de tout âge trouvèrent la mort dans cette combinaison qui leur était absolument étrangère. Outre la corruption fétide, le ruisseau déversa dans l'égout des flots de sang, tandis que la chaussée était jonchée de lambeaux humains en différents endroits. Les amis, les parents, les domestiques vinrent pendant toute la journée du lendemain reconnaître dans ce rouge fouillis les morceaux de ceux qui leur étaient chers. C'était horrible, mais intéressant. Paris tout entier voulut voir cela, et il vint des gens de province en quantité. Les différentes administrations de chemin de fer avaient eu l'excellente idée d'improviser des trains de plaisir. Anticipant sur ces événements, nous dirons ici que, par les soins de l'autorité, ce hachis humain, ces rillettes de cadavres mélangées à la vidange, ne tardèrent pas à mettre la peste noire dans le quartier. Le nombre des victimes de cette cruelle maladie n'est pas venu à notre connaissance. La préfecture de police en garda le secret avec un soin jaloux. Mais il fut tellement considérable que 232 familles aisées émigrèrent à Versailles, ville autrefois royale, qui gagne maintenant son pain à faire croire qu'elle a passé un traité avec les épidémies. Telles peuvent être les suites des briquets à l'usage des fumeurs. Et chaque fois que vous détournez une institution de son but, vous pouvez vous attendre à des désastres semblables. Mais revenons sur nos pas. Quelques détails de la catastrophe pourront réjouir les dames. Il ne restait plus vestige de la voiture de vidange. Le conducteur, les employés avaient été réduits en poussière impalpable, ainsi que les trois chevaux percherons. C'est ici le lieu de répondre à une lettre anonyme, fruit de la malveillance, qui nous demande comment le malheureux produit de l'incontinence d'un huissier, Gringalet, avait pu trouver un abri commode entre la croupe et la queue d'un cheval. À quoi servent ces plates objections ? Qu'opposer à un fait, nous méprisons les lettres anonymes. Telle est notre réponse. D'ailleurs, Gringalet était de petite nature. Il avait eu l'occasion de rendre un service futile au percheron. Bref, le percheron s'était prêté à la chose. De ce cheval percheron en particulier, il ne resta qu'une dent de la mâchoire inférieure. Gringalet, parvenu plus tard aux honneurs, la fit monter en épingle pour témoigner du miracle qui préserva ses jours. Sa dame la porte. Deux brevetés, le marchand de cirage et le commerçant en colle, furent foudroyés sur la porte de leur maison. Ils étaient ennemis en qualité de voisins. Le trépas les réunit. 16 jeunes enfants revenant de l'école à 7 heures avancée, par suite d'un gala qui avait célébré le jour de naissance de la pension Tricot, furent massacrés péniblement. Deux amoureux qui causaient, le mari qui les guettait et la fille de la maison qui profitait de la circonstance pour risquer sa première équipée, reçurent la mort également. Enfin, ils étaient 73, pas un centimètre humain de moins. Un fait curieux et qui rappelle l'aventure historique du fameux docteur Guillotin, tué par sa propre découverte, c'est que M. et Mme Fabrice, breveté inventeur du briquet, furent trouvés au nombre des victimes. Ils étaient dans la force de l'âge et ils s'aimaient. Bien entendu, nous ne faisons entrer dans ce fatal chiffre de 73 ni les chiens, ni les chats, ni les animaux secondaires. Quant au personnage de notre histoire, un instant avant l'explosion, Gringalet avait quitté son poste d'observation. Et pourquoi ? Parce que Messa, Sally et Lina avaient cessé leur conférence pour chanter. Et Gringalet n'aimait pas la musique. Mais ne leur blâmez pas, ce fut son salut. Au moment même de l'explosion, on avait pu voir Mademoiselle de Hachecor, le rémouleur et le joueur d'orgue se plonger dans une allée sombre qui faisait face à la maison du repris de justice, tandis que Mustapha, plus rapproché de la machine infernale, disparaissait dans un tourbillon de flammes et de fumée. Mustapha fut projeté avec une violence excessive jusqu'à la rue du Parc Royal où se termine la rue de Sévigné. Arrivé là, il eut la présence d'esprit de se tâter car il croyait être mort. Rien ne lui manquait sinon une oreille emportée par la roue de la voiture à vidange. Il revint en arrière pour la chercher, mais l'obscurité l'empêcha de la rencontrer. Pendant cela, Mandina et ses deux compagnons montaient un escalier étroit situé au fond de l'allée sombre. Ils comptèrent 116 marches et s'arrêtèrent devant une petite porte qui avait je ne sais quoi d'énigmatique. Mandina mit un doigt sur sa bouche et dit « C'est là, j'ai compté !»« Frappé ?» répliqua Pollux, « vous connaissez la façon convenue. » La fiancée du gendarme obéit. Elle frappa 15 coups, ainsi espacés 5, 4, 3, 2 et 1. Derrière la porte, on entendit un faible bruit. « Qui vive ?» demanda une voix imposante et cassée. Le rémouleur répondit « Les malades du docteur Fandango !» Une clé grinça dans la serrure et la porte laissa voir en s'ouvrant une noble tête de vieillard. C'était Silvio Pellico.